Ce matin, je vais vous lire quatre textes. Et je vais commencer par un psaume, le psaume 103, versets 8 à 14. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Et puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 15 à 35. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait en disant « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 18. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajouta, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Excusez-moi, je suis sûre que Teresa va m'apporter un verre d'eau. Et puis enfin, je terminerai par un autre texte de Matthieu, au chapitre 9, versets 2 à 16. On amena à Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche !» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Et l'homme se leva et s'en alla chez lui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous l'aurez compris, à travers tous ces textes, c'est sur le thème du pardon que portera notre méditation de ce matin. Ce terme que nous connaissons depuis l'enfance, tant il est associé à notre éducation religieuse depuis l'école biblique, la liturgie, les textes bibliques ou même littéraires, la philosophie, etc. etc. Un terme pourtant suspect, car il recouvre plein d'autres termes qu'on n'aime pas du tout. Faute, péché, rémission, rédemption, expiation. On s'en méfie comme tout ce qui nous embrigade dans une espèce de fatras religieux de marchandage avec Dieu ou avec ceux qui prétendent le représenter. On aime pourtant le rapprocher d'un autre terme, grâce, la grâce de Dieu, qui nous plaît beaucoup plus dans son inconditionnalité. Un terme mis à toutes les sauces et qui recouvre aussi des réalités très différentes. Pardon de Dieu pour nos fautes, que nous lui avouons ou que nous ne lui avouons pas. Pardon de nos parents ou de nos proches pour nos offenses. Pardon pour des crimes impardonnables. Plus récemment, on a vu apparaître un pardon collectif ou historique d'une nation vers une autre nation ou vers un autre peuple, qui, lui, s'éloigne du registre religieux pour un registre plus moral d'une société qui souhaite être pardonnée vis-à-vis de fautes passées ou récentes. Enfin, pardon qu'on donne, ou qu'on essaie de donner, et pardon qu'on reçoit. Pardon qui implique une réciprocité, ou pardon gratuit, pardon inconditionnel. Pardon effacement des fautes, ou pardon oubli pur et simple. Alors, j'ai choisi ce matin d'écarter volontairement la catégorie pardon collectif ou bien celle du pardon impardonnable, déjà largement évoquée par les philosophes et les théologiens. Nous ne parlerons pas donc ce matin de génocide, de Shoah, de guerre de religion. Nous ne parlerons pas non plus de crimes, de viols, de tortures, de haute trahison, de toutes sortes de crimes et d'atrocités perpétrés par les hommes sur les hommes. Mais je voudrais ce matin me concentrer au contraire, sur les fautes pardonnables, ces fautes quotidiennes ou exceptionnelles sur lesquelles notre raison, notre volonté peut faire ou défaire une situation. Ces dizaines, ces milliers de fautes individuelles qui perturbent, voire qui empoisonnent les relations humaines, en famille, entre amis ou même avec des gens qu'on ne connaît pas. Ces non-dits qui se transmettent de génération en génération. Au fond, la question essentielle, c'est quelle est la fonction du pardon dans notre société ? À quoi ça sert de pardonner ou d'être pardonné ? Est-ce que ça fait avancer les choses ? Et pour cela, je voudrais commencer dans cette prédication par explorer l'origine de la notion de pardon. Est-ce que c'est une origine 100% biblique ou non ? Quelle était sa fonction chez les Juifs et chez les premiers chrétiens ? Et comment a-t-elle évolué, cette notion de pardon ? Et puis, dans la deuxième partie, je voudrais explorer la fonction du pardon dans nos vies. Comment mettons-nous en œuvre, ou pas, le pardon de nos prochains ? Comment s'exerce cette réciprocité théorique, pardonner et être pardonné ? Et quel effet sur nous-mêmes et sur la collectivité ? Alors, je voudrais commencer par vous dire que, pour moi, le pardon, c'est bien une invention de Dieu. Commençons un peu par l'origine du pardon. J'ai passé de longs moments à lire depuis quelques semaines quelques textes passionnants sur le sujet, et plusieurs auteurs seront donc assez présents par citation ou par réflexion pendant cette prédication. Olivier Abel a écrit des choses très intéressantes, professeur de théologie éthique. Vladimir Jankélévitch, spécialiste de philosophie ancienne, qui a énormément écrit sur le pardon de la Shoah, bien sûr, et grand résistant. Et puis enfin Paul Ricoeur, philosophe français, bien connu des protestants. Alors le pardon, c'est une notion essentiellement religieuse et quasi exclusivement chrétienne, même si en réalité, on voit tout de même apparaître la notion de pardon dans certaines œuvres littéraires laïques, comme les fables d'Ésope, qui datent à peu près de moins 600 avant Jésus-Christ. Le terme pardon, il vient du latin perdonare, qui veut dire donner totalement, donner à quelqu'un sa dette, remettre sa dette. Dans la Bible, le terme pardon est dès l'origine lié au mot péché, vous savez, ce mot qu'on n'aime pas. En tout état de cause, le pardon est une notion quasi exclusivement biblique, donc juive au départ, même si les juifs l'interprètent assez vite comme un marché avec une compensation à donner. Et puis, ça deviendra une notion très, très chrétienne. Elle existe beaucoup moins dans l'islam, même si le pardon est présenté comme une vertu du musulman. Mais ce pardon humain n'efface jamais la faute qui, elle, ne peut être jugée que par Allah, qui imposera une expiation à ce péché. En ce qui concerne les Juifs, Jacques Attali explique que dans l'histoire, la relation des Juifs avec l'argent s'est démarquée de celle des autres religions monothéistes. Cette richesse, qui est donc bienvenue chez les Juifs, doit servir à réparer le monde. Elle apparaît donc rapidement comme un moyen de compensation d'un préjudice ou d'une offense, permettant ainsi que la vengeance ou la rancune ne s'installe pas. Pour les Juifs, donc, pardon va de pair avec compensation, avec réparation et compensation. En réalité, que ce soit dans le cas du pardon de Dieu ou du pardon d'un homme vis-à-vis d'un autre homme, la Bible hésite parfois entre un pardon universel, inconditionnel, comme dans le psaume 103 que nous avons lu, et un pardon accordé avec échange ou réciprocité. Le pardon est accordé d'avance à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui obéissent à sa loi. Souvenez-vous, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Elle n'introduit pas franchement la notion de marchandage pour obtenir le pardon, mais peut parfois le laisser croire au dépositaire de l'autorité religieuse, qui commence donc à l'exploiter. Les rabbins, par exemple, disaient qu'au temps de Jésus qu'on pouvait pardonner 3 fois. C'est la raison pour laquelle Pierre en propose 7. Et Jésus, une fois de plus, casse les codes et répond 77, ce qui veut dire que le pardon est infini, qu'il ne s'arrêtera jamais, autant de fois qu'il le faut, autant de fois qu'on nous le demande. Cette tentation de marchandage dont on vient de parler, nous la trouvons aussi un petit peu dans le texte de Matthieu. Vous savez, cette phrase qui est un peu énigmatique, qui dit « Ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel, et ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. » En fait, c'est en quelque sorte une délégation de pouvoir que Jésus accorde aux disciples par ce texte pour juger les fautes des uns et des autres. Et c'est ce texte qui a servi de base à l'Église pendant des siècles pour monnayer ses services et pour marchander son salut. Un exemple parmi d'autres. Vous voulez être sauvé, vous voulez avoir une place au paradis. Venez, venez, venez chez nous. Vous aurez tout cela, mais à une condition. Confessez-nous vos péchés, expiez vos fautes. Vous êtes éternellement coupable, comme nous, Église, allons vous le montrer. Confession, expiation et enfin pardon, si et seulement si on se conforme aux exigences des représentants de Dieu sur terre. Il me semble vraiment que l'invention de l'expiation, c'est le contraire de la grâce, une sorte de casier judiciaire de notre péché. Une arnaque, une véritable arnaque, que Luther dénoncera en brandissant l'arme de la grâce divine et en proposant la repentance, qui est tout l'inverse. La repentance, c'est un chemin personnel de prise de conscience qui n'est jamais conditionné par le pardon. Si l'on suit strictement la Bible, le pardon de Dieu va jusqu'à l'oubli, ou plutôt jusqu'à ne plus se souvenir, ce qui est assez différent. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'oubli pourrait être juste une négligence, un effacement du passé, le temps faisant son œuvre, mais ça n'effacerait pas pour autant la faute commise. Ne pas se souvenir des fautes, c'est redonner constamment une nouvelle chance. Ne pas laisser l'homme avec le poids de sa faute, ne pas l'enfermer dans l'imperfection, et surtout considérer que l'homme peut changer, l'homme peut évoluer, l'homme peut se repentir et repartir sur un autre pied. S'il n'est pas marqué à tout jamais par la faute commise, Dieu lui laisse la possibilité de recommencer, de se relever, en lui donnant autant d'encouragement que celui qui n'a pas commis de faute. Avec Jésus, c'est un pardon totalement inconditionnel qui apparaît, mais qui encourage de notre part le pardon pour les autres dans notre futur et dans notre vie quotidienne. Un pardon gratuit, a priori, sans explication et sans négociation. Cette grâce divine qui fait que Dieu met de côté nos fautes et nos imperfections pour ne pas nous laisser dans cette éternelle culpabilité. C'est en nous libérant définitivement de cette culpabilité, même sur la croix, que Jésus nous sort de cette condition de pécheur et nous pousse à essayer de lui ressembler. Mais quel que soit le mode de pardon, il traduit une fois de plus le sentiment de Dieu à notre égard. Bien entendu, il vaudrait mieux que l'homme soit parfait. Bien sûr, nous devrions tous être comme Job et continuer à louer Dieu quand les malheurs s'abattent sur nous et quand nous provoquons des catastrophes. La vérité, et Dieu n'est pas dupe, c'est que les hommes sont des hommes. Et depuis Adam et Ève, il sait, et nous savons, que nous sommes tous imparfaits. Que nous sommes volages, cupides, trompeurs et parfois trompés, agressifs ou vengeurs, jaloux et paresseux. Pourtant, ce que Dieu nous dit à travers ces versets, c'est qu'il nous aime dans notre condition d'homme et qu'il espère constamment nous pousser à nous rapprocher de lui et que le pardon est le meilleur exemple qu'il nous invite à suivre. Ce qui est constamment présent également, c'est ce principe de réciprocité. Dieu nous pardonne autant, de la même façon, que nous pardonnons à nos bourreaux ou à nos offenseurs. Jésus ne dit pas « pardonne-nous si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », mais « pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et là aussi, la distinction est importante. Dieu ne fait jamais de chantage. Il nous pousse constamment à suivre son exemple. À l'image de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », nous pardonnons à notre prochain non par intérêt et non parce que Dieu nous a promis une récompense, mais par totale gratuité. Une relation à l'autre totalement désintéressée, un don inhabituel de l'ordre de la grâce. L'exemple de la grâce de Dieu nous donne confiance dans notre capacité à l'imiter sans contrepartie. Alors, maintenant, je voudrais parler un peu du pardon dans notre vie d'aujourd'hui. Et je voudrais reprendre le texte de Matthieu, qui est un des textes classiques de guérison du paralytique. Dans ce texte que je vous ai lu, Jésus dit au paralytique, avant même de le guérir, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Puis, après un bref échange avec les scribes, qui l'accusent de blasphème, comment peut-il, lui, pardonner les péchés ? Il dit, qu'est-ce qui est le plus facile, de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi ». Il me semble que c'est une extraordinaire situation où le miracle, en réalité, ça n'est pas que le paralytique soit guéri, mais le miracle, c'est que ses péchés lui soient pardonnés. La guérison, elle vient bien du pardon des péchés et pas d'un tour de magie quelconque. Le pardon inconditionnel qu'on annonce à cet homme le lave de toute sa culpabilité, de toute sa vie de souffrance, pour le laisser se relever tout seul et repartir vers une vie nouvelle. Alors je pense que ce paralytique, c'est un peu nous, lorsque nous trimballons toute une vie de culpabilité, de victime. Lorsque personne ne nous libère de cela, une fois pour toutes, le fardeau ne peut que s'alourdir et nous paralyser petit à petit. Ce miracle-là, si on parle de miracle, il me semble qu'il est tout à fait à notre portée. En gros, si on réfléchit bien, on est au moins autant souvent offenseur qu'offensé. Les deux se mélangent souvent. Réfléchissons un petit moment dans nos têtes à toutes les fautes que nous commettons, plus ou moins sans y penser. Des petits arrangements avec la vérité en parlant à notre conjoint, des petites trahisons sans importance avec des amis, de mauvaises excuses pour ne pas tenir une promesse à ses enfants, ou tout simplement un manque d'attention à l'autre qui en a besoin. Souvenons-nous aussi des rancunes cachées dans un coin de notre tête, querelles d'argent pas réglées, brouilles jamais apaisées, trahisons jamais pardonnées, détestation pour je ne sais quelle querelle d'enfants jamais enterrée. Nous avons tant et tant de raisons d'en vouloir aux autres au fil de nos vies, et tant de raisons de camper sur nos positions de victimes offensées, et donc de couper le fil de la relation avec l'autre. Quand on se retranche derrière la rancune, rien ni personne ne pourrait nous faire bouger d'un iota. La rancune, pour celui qui la ressent, c'est un poison hautement toxique à diffusion lente, qui ne disparaît même pas lorsque l'origine de cette rancune est oubliée. On est malheureux, on est blessé, rien ne pourra nous faire changer d'avis. Vous savez, c'est le processus du deuil qui est décrit très bien par les psychanalystes. Qu'il s'agisse d'un deuil véritable ou bien d'un divorce, d'une déception amoureuse ou d'une brouille absolue, les étapes sont en fait toujours les mêmes. Ça commence par la sidération, la surprise, puis le déni, c'est pas possible que ça m'arrive à moi, c'est pas la réalité, etc. Puis c'est la révolte ou la colère, comment on a pu faire ça, comment on a pu me faire ça, ça n'est pas possible, c'est trop injuste, etc. Et puis la dépression, quand on a réalisé que c'est bien la réalité. Et puis enfin, quand on a, si je puis dire, touché le fond, il y a la reconstruction qui peut commencer. Eh bien, la rancune, elle se niche précisément entre la colère et la dépression. Et si on ne fait rien, elle peut durer éternellement. Humainement, finalement, on n'a aucune raison de sortir de la rancune. C'est à la fois très confortable, quelque part on reste une victime, et on se demande à être plein, et puis ça évite de se poser plein de questions. Qu'est-ce qui fait qu'on peut un jour sortir de la dépression pour reconstruire autre chose, autrement ? Reprendre le dialogue avec l'offenseur, tendre la main, essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, lui expliquer pourquoi ça nous fait si mal, c'est faire un effort surhumain. Mais cet effort surhumain permet peut-être d'éviter des mois, des années de souffrance. Un effort surhumain, n'est-ce pas ce que nous propose Dieu constamment ? Sortir un peu de notre condition humaine, imparfaite, belliqueuse, fautive, pour essayer le pardon. Et c'est vraiment ce que je ressens avec la présence de Dieu dans nos vies. On commence par ne pas être d'accord, on boude, on montre notre malheur, on se fait plaindre. Ou bien lorsqu'on est fautif, on passe à autre chose, on oublie, on essaie d'oublier ce qu'on a fait, de dire au fond c'est pas si grave. Et parfois, ça nous réveille la nuit, sans comprendre pourquoi. Et puis après un laps de temps très variable, on ressent comme un besoin, comme une urgence, de se débarrasser de ce poids sur nos épaules. Mettre, au sens strict du terme, un peu de grâce dans notre humanité. Peut-être qu'à ce moment-là, justement, Jésus s'approche de nous pour nous dire « Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. » Amen.